pour la revue Hypnose et Thérapie Brève numéro 56, dans la rubrique Les suggestions post-hypnotiques, l'ordonnance du docteur Marc Galli. Je rappelle que le docteur Marc Galli est médecin anesthésiste, qu'il a une consultation d'hypnose médicale à l'hôpital Saint-Louis-Lariboisière à Paris, qu'il enseigne au diplôme universitaire d'hypnose médicale de la Pitié-Salpêtrière, et qu'il est l'auteur du livre « Être là », ouvrage collectif sur la notion de présence aux éditions Flammarion. La relation thérapeutique est le support du processus hypnotique de l'induction à la transe. Dans le cadre de cette relation, et quelle que soit la pratique, il existe de nombreux moyens d'entrer en hypnose qui conduisent à la transe hypnotique. L'observation et l'écoute construisent le cadre de cette présence partagée qui en est le socle. Dans cette relation clinique, les suggestions et métaphores accompagnent le processus hypnotique. Les suggestions post-hypnotiques guident le patient dans sa réassociation. Ces grandes étapes du processus hypnotique sont largement décrites par de nombreux auteurs et font aussi l'objet de recherches cliniques et scientifiques avec l'aide des neurosciences. Ici, nous nous interrogerons sur les moyens d'accompagner le patient au-delà de la séance et de lui donner les moyens de poursuivre son travail de changement. Cette réflexion est nécessaire et même centrale pour chaque praticien, quel que soit son mode d'exercice. C'est par exemple, dans le cadre d'une préparation à une intervention chirurgicale, un accompagnement d'un syndrome douloureux, d'une maladie chronique cancéreuse ou non, ou dans des problématiques d'addiction, d'anxiété ou de phobie. La relation thérapeutique induite par la séance trouve souvent une traduction, une projection en dehors d'elle. Cette projection peut prendre des formes très variées. Pour certains, ce sont des enregistrements sonores, pour d'autres, des immersions virtuelles ou d'autres propositions qui prennent la forme d'exercices d'auto-hypnose plus ou moins standardisés. Mais chez certains patients, cette démarche ne peut se faire. Pour ma part, après une longue démarche clinique, des échanges avec quelques collègues, je termine ma rencontre par la rédaction d'une ordonnance. Avant de rentrer dans le détail de cette ordonnance ciblée, je souhaite aborder rapidement deux problématiques. La séance unique et le débriefing. Ces deux thèmes rejoignent notre réflexion sur la projection thérapeutique post-séance proprement dite. Au terme de cette présentation, nous développerons deux vignettes cliniques, deux ordonnances. La séance doit-elle être unique? Au cours de la formation, dans les séances d'intervision et au contact de François Roustan et de Jean-Marc Benayem, cette question est souvent posée. La réponse n'est pas univoque et reste un large sujet de discussion. Certes, la séance est toujours unique dans sa relation thérapeutique, son contenu, sa perception, son déroulement et sa projection. Néanmoins, doit-elle être la seule séance dans le processus thérapeutique? La réponse peut être simple. Dans le cadre d'un accompagnement pour une intervention au bloc opératoire, elle reste plus complexe dans les autres situations. Quoi qu'il en soit, c'est toujours au patient, dans la grande majorité des cas, d'en prendre l'initiative. C'est à lui et à lui seul de prendre la décision d'une deuxième rencontre, de poursuivre son chemin thérapeutique dans le cadre d'un accompagnement clinique. Le praticien est là pour le laisser libre de décider et d'accepter le processus de changement qui s'enclenche. Cet espace de liberté ouvert doit être respecté. Et il n'en demeure pas moins que si le processus de changement est enclenché pendant la séance, il se poursuit au-delà de celle-ci par un travail personnel du patient. Ce travail peut ou non suffire dans la conduite du changement et conduire alors à d'autres séances. Quelle que soit l'évolution, c'est au patient d'en prendre la décision. Rien n'est imposé. Nous observons simplement dans notre pratique quotidienne que le travail personnel qui se poursuit au-delà de la séance peut prendre différentes formes et qu'il appartient entièrement au processus hypnotique. Le débriefing. Là encore se pose une nouvelle question. Doit-on débriefer la séance ? La réponse n'est pas si simple et dépend de la relation thérapeutique qui s'est installée et du contexte dans lequel elle se déroule. À chaque praticien, son attitude et sa réponse. Faire ou ne pas faire. Pour certains praticiens, il n'y a pas de débriefing à faire. Ils laissent le processus hypnotique enclenché pendant la séance progresser et se projeter. Ils accompagnent le patient dans le processus sans recourir au débriefing. Pour ma part, j'ai choisi le débriefing. Pour moi, il fait partie de la relation thérapeutique, il rentre dans le processus de réassociation et ouvre la porte à la rédaction de l'ordonnance. Il peut prendre des formes diverses en fonction du contexte. Je voudrais simplement souligner, comme anecdote, que dans ma pratique en zone rurale, j'ai tendance à étaler le temps qui s'écoule entre la sortie de transe et la reprise par le patient de la conduite automobile. Le débriefing fait partie de ce temps de réassociation et aussi de partage. L'ordonnance. L'ordonnance s'intègre dans le débriefing. Elle est rédigée à la main sur papier libre et comporte 3 volets. Elle s'appuie sur les éléments de notre rencontre comme l'observation, l'écoute, la présence, les suggestions et métaphores hypnotiques et éventuellement sur certains éléments et remarques que le patient apporte après la phase de réassociation. L'ordonnance appartient au patient. Il y a 3 volets. Premier volet, mon mail et mon numéro de téléphone. Ils sont donnés en toute clarté et toute liberté. Au fil du temps, je constate que très rarement les patients les utilisent, comme si le fait de les donner suffit à ne pas les utiliser. Quel paradoxe. Le deuxième volet, un livre, un disque, un tableau. Quelles que soient les circonstances de la rencontre, en période périopératoire ou dans des consultations plus formelles, je m'intéresse toujours aux hobbies du patient, à ses goûts de lecture, de musique, ou à ses autres activités comme le cinéma, les voyages, les sports. Ces éléments rentrent dans la perception élargie du patient et me permettent aussi d'évaluer le retentissement de la problématique posée. Il en va de même pour le sommeil, les activités physiques et la prise ou la perte de poids. Enfin, je prends connaissance de l'entourage professionnel et sociologique du patient. Dans cette rencontre, ce tour d'horizon, si l'on peut dire, cela va permettre de répondre à cette question 1000 fois posée par François Roustan dans ses interventions et nos échanges. Qui est cette personne ? Toutes ces connaissances sont reliées à la problématique, au contexte et bien évidemment à la séance. Cet ensemble conduit à prescrire au patient soit un livre à lire, soit un disque à écouter, un tableau à regarder ou autre chose en fonction du contexte. Cette proposition ciblée ne vient pas par hasard, elle est l'un des éléments qui viendront lier, associer, relier le patient à la séance dans son travail de changement. Elle viendra comme un point d'appui thérapeutique dans son cheminement. Cette proposition de lien thérapeutique est pour moi l'un des éléments centraux de la pratique de l'auto-hypnose. Elle est là comme un rappel, peut-être comme un geste d'ancrage, qui relie le patient dans le processus et le travail de changement. Cet élément ouvre les perceptions créatives du patient à la manière d'Erickson qui proposait au patient d'aller au zoo. Cette pratique lui appartient entièrement, à lui et à lui seul de l'utiliser, de la percevoir comme corps de stabilité et de présence dans sa propre démarche. Troisième volet. Il reprend les mots utilisés pendant la séance proprement dite. Ces mots que nous formulons, proposons et suggérons dans notre relation thérapeutique. Ces mots qui sont aussi ceux du patient, ces mots qui surgissent pendant l'entretien ou la séance, dans notre posture de présence, d'écoute et d'observation. Ces mots qui accompagnent aussi les silences et les périodes d'attente. Transcrits sur la feuille de papier, ils sont là et sont les points d'appui du travail d'auto-hypnose. Ils peuvent résonner, s'incorporer comme une musique, un chant, dans les perceptions du patient. Je rappelle que le docteur Marc Galli est médecin anesthésiste, qu'il a une consultation d'hypnose médicale à l'hôpital Saint-Louis-la-Riboisière à Paris, qu'il enseigne au diplôme universitaire d'hypnose médicale de la Pitié-Salpêtrière et qu'il est l'auteur du livre « Être là », qui est un ouvrage collectif sur la notion de présence aux éditions Flammarion. Alors d'autres ouvrages intéressants en complément de cet article, comme le livre du docteur Jean-Marc Benayem et de François Roustan, « L'hypnose ou les portes de la guérison » chez Odile Jacob, ou le livre de René Char, « Feuillet d'hypnose » aux éditions Folio Plus. Alors pour lire la suite de cet article, notamment soit de commander ce numéro de la revue, soit de vous abonner en allant directement sur le site hypnose-thérapie-brève.org, le tout au singulier. Merci et à bientôt.